Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Barthélémy Gaillard, Mélanie Chalandon, Joséphine Reinhardt, Gwendoline Troiano et Nora Litoussi, réalisé par Vivian Le Cuivre, et à la technique ce matin, c'est Sébastien Royer. C'est le dernier volet de notre série consacrée au rapport de force géopolitique qui se noue à travers les accords de libre-échange. On a parlé lundi de l'Europe qui fait du commerce un outil stratégique, mardi de la Chine et de son ambition de créer le plus grand espace de libre-échange au monde, hier du continent africain en quête d'un marché commun. Aujourd'hui, les États-Unis qui multiplient les gestes et les mots d'adieu à la mondialisation, plus encore en cette année électorale.
We've lost over a fairly short period of time, 60,000 factories.
Nous avons perdu, sur une période très courte, 60 000 usines fermées ou délocalisées et 6 millions d'emplois au moins. Et grâce à notre travail, aujourd'hui, l'activité revient. Regardez ce qu'il se passe avec Chrysler, Foxconn et tant d'autres qui reviennent aux États-Unis.
La Chine veut acheter nos semi-conducteurs qui comptent parmi les plus sophistiqués du marché. Or, nous ne pouvons pas nous permettre de leur laisser un accès à ces semi-conducteurs. Nous avons décidé d'interdire l'accès à nos semi-conducteurs non pas à une ou deux entreprises chinoises, mais à tout le pays.
Nous allons acheter américain. C'est complètement conforme aux règles du commerce international et de l'OMC.
Il n'y a plus d'abonnés au numéro que vous avez demandé. Joe Biden invoque ici l'OMC. Les mesures protectionnistes américaines ne poseraient aucun problème à l'Organisation mondiale du commerce. Sauf que l'instance de règlement des différends de l'OMC, cette sorte de cour d'appel qui règle les conflits entre États quand l'un d'eux s'estime lésé ou bridé dans ses volontés d'expansion commerciale, n'existe pour ainsi dire plus. Et ce sont bien les États-Unis qui bloquent la nomination des juges, sans lesquels cet organe ne peut rien faire. En dépit de l'alternance politique à la Maison-Blanche, les États-Unis maintiennent un même cap économique depuis près de 10 ans, une politique protectionniste, résolument tournée vers un adversaire, la Chine, contre lequel Donald Trump avait déjà initié une guerre commerciale intense. Joe Biden a pour sa part multiplié les investissements pour relancer l'économie américaine. Si les promesses défendues sont louables, protéger les ouvriers américains et le tissu industriel, elles ne se tiennent pas sans tordre le bras de quelques partenaires. Mexique et Canada ont dû revoir les clauses de l'ALENA, l'accord commercial de 30 ans. Les partenaires d'Asie doivent pouvoir quant à eux s'assurer que rien de ce qu'ils exportent vers les États-Unis ne soit de près ou de loin chinois. Alors comment, en 20 ans seulement, le pays apôtre de la mondialisation est-il passé d'un discours libre-échangiste, comme on dit, à une rhétorique protectionniste? À 8 mois de l'élection présidentielle, quelle tournure prend cette bataille entre démocrates et républicains, puisqu'entre Joe Biden et Donald Trump, c'est à qui sera le plus protectionniste aujourd'hui? Bonjour André Sapir.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur à l'Université libre de Bruxelles, chercheur à l'Institut Brugel. Merci à Angélique Boin de vous accueillir dans les studios de Radio France à Bruxelles. Vous avez aussi été, André Sapir, professeur aux États-Unis, où vous avez travaillé en parallèle auprès du bureau du représentant américain au commerce. Bonjour Jean-Baptiste Velu.
Bonjour.
Et bienvenue dans ce studio. Vous êtes professeur des universités à la Sorbonne Nouvelle, cofondateur avec Maud Kessard de l'Observatoire de la politique extérieure américaine, l'OPEXA, pour rassembler, fédérer la recherche et l'expertise sur la politique étrangère américaine. Jean-Baptiste Velu, on va revenir sur la façon dont les États-Unis de Joe Biden aujourd'hui et de Donald Trump avant lui appliquent ce repli protectionniste. Mais avant d'évoquer les faits, les traités, les accords bilatéraux, ce repli fait-il aussi l'objet d'une théorie par des économistes américains, des conseillers du gouvernement aujourd'hui?
Alors, je pense que puisque vous vous intéressez aux accords de libre-échange, je pense qu'il est important de bien comprendre ce basculement de la politique commerciale et le processus de décentrement de la politique commerciale, loin des accords de libre-échange qui étaient au cœur de la doctrine de libéralisation compétitive, c'est-à-dire cette course aux accords sur le plan bilatéral, sur le plan régional, sur le plan multilatéral. qui aujourd'hui finalement ne sont plus au centre du jeu des États-Unis. Alors il y a à la fois une remise en question de ces accords qui sont devenus complètement tabous, hein, où on ne parle plus d'accords de libre-échange, on parlait d'abord de partenariat, on parle de cadre économique, donc il faut vraiment éviter ces mots.
On ne parle plus de mondialisation heureuse.
Voilà, exactement. Mais dans les faits, on utilise aussi de plus en plus d'outils différents, donc des contrôles aux exportations, des sanctions économiques, même si c'est quelque chose d'assez traditionnel. Une politique industrielle qui a refait surface et qui était aussi depuis très très longtemps, enfin, qu'il y a toujours été, même dans l'histoire américaine, assez controversée, voire tabou. Donc c'est un arsenal de mesures politiques qui vient se substituer à une politique commerciale qui était avant tout axée sur ces accords de libre-échange en compétition, en concurrence avec l'Union européenne et avec d'autres pays comme le Canada qui négocient des accords un peu partout dans le monde.
Alors si on devait citer quelques noms de ceux qui théorisent aujourd'hui ce protectionnisme, il y a par exemple Peter Navarro, le conseiller aux affaires économiques de Donald Trump. Il a écrit certains livres là-dessus. Est-ce qu'il est lu ? Comment, en quels termes parle-t-il de cette nouvelle philosophie commerciale ?
Alors sur le Peter Navarro, il a d'ailleurs quelques soucis avec la justice, donc je ne suis pas sûr que ce soit une des grandes figures qui théorise ça. Enfin, je pense que c'est quelqu'un qui est un économiste très hétérodoxe et qui a eu un poste sous l'administration Trump pour ses positions antimondialistes. Si on veut des choses peut-être... Bon alors, on reste dans les praticiens de la politique commerciale, mais il me semble que Robert Lighthizer, qui était le représentant au commerce, a une conception beaucoup plus pointue et peut-être beaucoup plus fine de ces questions commerciales, qui est un peu moins manichéenne, je dirais, que Peter Navarro, qui était un petit peu la bête noire des économistes aux États-Unis.
Avec aussi un économiste au MIT, comment s'appelle-t-il, David Autor, qui parle d'un choc de la Chine, qui tient Pékin pour responsable du marasme de l'emploi industriel aux États-Unis. Il a ses travaux datent déjà d'il y a quelques années. Est-ce qu'il réactualise sa pensée?
Absolument. Donc David Autor et ses collègues comme Gordon Hanson ont publié une série d'articles, notamment cet article qui a fait histoire, le choc de la Chine, qui curieusement a refait surface en 2016, parce que c'est un article qui datait de 2012-2013, donc il y avait plusieurs versions, et qui est entré dans la campagne présidentielle de 2016. Ce qu'il a démontré, ce qu'ils ont démontré, ça a été vraiment un séisme, je dirais, au niveau à la fois politique, mais aussi au niveau de la recherche, sur la conceptualisation du libre-échange et de ses accords, les perdants et les gagnants. Et ils ont démontré que les effets multiplicateurs, l'impact au niveau des communautés était beaucoup plus dévastateur que ce qui avait été jusqu'ici envisagé.
Alors il me semble, André Sapir, qu'aujourd'hui tous les tenants du protectionnisme aux États-Unis se réfèrent au moment où la jeune fédération, la toute jeune fédération des États-Unis s'est construite autour de mesures protectionnistes. À la naissance de cette fédération américaine, les droits de douane étaient sa seule ressource. C'est le Sud esclavagiste qui plaidait pour le libre-échange, pour exporter son tabac, son riz, son coton. On sait que c'est le Nord qui a remporté la guerre de sécession. Mais une fois ceci posé, est-ce que pour le reste, l'analyse et les solutions, démocrates et républicains aujourd'hui font la même analyse du protectionnisme ?
Oui, c'est vrai qu'il y a une forte convergence entre démocrates et républicains sur l'agenda commercial. Et en particulier sur la dimension Chine, qui, je pense, est tout à fait cruciale dans cette discussion. Parce qu'on sait bien que l'échiquier politique aux États-Unis, il est extrêmement, extrêmement polarisé. Mais sur une dimension qui est la Chine, et y compris les questions commerciales avec la Chine, pas uniquement la question commerciale, mais la Chine fait consensus à Washington, entre démocrates et républicains. Et ce qui est intéressant dans cette phase actuelle avec la Chine, c'est qu'il y a une combinaison, une superposition de deux inquiétudes, de deux réflexions. L'une qui vient d'être mise en avant, les fameux travaux de David Autor et Gordon Hanson, qui ont été de voir dans quelle mesure les importations qui sont devenues importantes en provenance de Chine, en particulier depuis que la Chine a adhéré à l'Organisation mondiale du commerce en 2001, les importations en particulier aux États-Unis, ont désindustrialisé certaines régions. Et ces travaux économiques ont effectivement joué un rôle important dans la discussion, mais il y a à côté, on va dire, de la concurrence économique ou industrielle entre la Chine et les États-Unis, il y a bien entendu une autre concurrence d'un autre niveau, qui est une concurrence géopolitique, en termes de, on va dire, de politique étrangère, voire militaire.
Et d'ailleurs, André Sapir, le conseiller de Joe Biden, Jake Sullivan, quand il expose la politique économique du gouvernement de Joe Biden, il l'expose dans la revue Foreign Policy. C'est-à-dire que les États-Unis envisagent la politique commerciale comme de la politique extérieure, toujours.
Tout à fait. Donc cette attitude des États-Unis, elle n'est pas nouvelle. Je pense qu'il est correct de dire, et moi je l'ai observé pendant les années où je vivais aux États-Unis, et j'interagissais effectivement avec des dirigeants à Washington en charge de la politique commerciale. Je l'avais constaté, j'ose dire, il y a 40 ans déjà, qu'il y avait une différence immense entre la manière dont nous, en Europe, nous regardons la politique commerciale, ou nous regardions la politique commerciale en termes presque exclusivement économiques, alors qu'aux États-Unis, la politique commerciale était vue déjà, c'était bien avant la Chine, était vue comme faisant partie d'un instrument dans des objectifs de politique étrangère. Donc oui, la question... aujourd'hui, effectivement, Jack Sullivan, sur les questions commerciales, en particulier avec la Chine, domine par rapport aux discussions économiques. Mais les deux se renforcent l'une à l'autre. Donc il y a la Chine comme concurrent économique et il y a la Chine comme concurrent géopolitique. Et les deux vont dans le même sens, de prendre des mesures de protection à l'importation et de limitation à l'exportation, en particulier dans des domaines de haute technologie ou pour des biens à usage dual militaire et civil vers la Chine. Donc la Chine est vraiment au centre du recentrage qu'on observe aux États-Unis, et y compris parfois avec l'Europe, parce que c'est aussi l'attitude de l'Europe par rapport à la Chine. Mais la Chine est au cœur de cette discussion.
Et notamment, vous avez, André Sapir, participé à plusieurs négociations de la Commission européenne, observé aussi ces négociations sur différents traités de libre-échange. Jean-Baptiste Velu, ces deux enjeux se renforcent l'un l'autre. La question de renforcer l'industrie américaine pour des raisons sociales, de préservation des emplois, etc. Et cet enjeu géopolitique de maintenir la Chine la plus à distance possible et de ne pas nourrir la bête chinoise, comme disent les Américains. Est-ce que, néanmoins, avec le recul, il est possible de savoir si cette politique protectionniste n'a pas commencé avant que la Chine commence à être vraiment dans tous les discours américains comme l'adversaire commercial le plus farouche?
Bien sûr, je crois que c'est une donnée, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, qui fait partie intégrante de l'histoire américaine, qui, rappelons-le, a été protectionniste jusqu'en 1934. Enfin, c'est un des événements phares qu'on cite souvent, mais même après, sous Ronald Reagan, bon, il y a toujours eu...
Même plus récemment. En fait, ça a commencé quand pour vous, le début de la fin du protectionnisme, les années 2000?
Alors en fait, ça dépend comment on définit le protectionnisme, mais je crois que le GATT et puis l'OMC a toujours laissé une marge de manœuvre aux États, c'était ce compromis libéral, pour permettre aux États de protéger leur économie, et les États-Unis ont toujours utiliser un certain nombre de mesures comme des droits compensatoires, l'anti-dumping, tout au long de leur histoire. Il y a eu des périodes, des cycles, effectivement, sous l'administration Reagan, notamment des négociations très, très dures avec le Japon. Mais si on prend aussi, on regarde d'autres facettes de ce protectionnisme, rappelons que les États-Unis subventionnent leur agriculture depuis des décennies, voire des siècles. Donc, Vous voyez, il s'agit là aussi d'une forme de protectionnisme qui est très mal vue du côté des pays du Sud. On pourrait aussi parler d'une forme de protectionnisme comme la protection des droits de propriété intellectuelle qui, dans ses versions les plus extrêmes, nuit à l'innovation et est une forme de protection également.
En 1933, nous avons adopté une loi intitulée « Acheter américain ». Mais depuis trop longtemps, les administrations successives, qu'elles soient démocrates ou républicaines, ont dérogé à ce principe. Ce temps-là est révolu. Tous les matériaux utilisés dans le cadre des projets de nouvelles infrastructures financés par l'État fédéral devront être « Made in America ». Je suis sérieux.
Un discours de Joe Biden qui date de l'année dernière. André Sapir, quels sont d'ores et déjà les effets de l'Inflation Reduction Act, l'IRA? C'est dans le cadre de l'IRA que Joe Biden dit que tous les matériaux utilisés pour les nouvelles infrastructures financées par l'État devront être fabriqués aux États-Unis. Alors, quels effets d'ores et déjà de cette Inflation Reduction Act, qui est parmi les lois américaines les plus coûteuses de l'histoire, qui a été adoptée en août 2022? Est-ce que certains des emplois perdus par plusieurs décennies de délocalisation ont été retrouver?
Alors je dirais que c'est un phénomène quand même assez lent. C'est une discussion qu'on connaît aussi en Europe et qu'on connaît bien sûr en France. Il y a eu aux États-Unis, comme en Europe et en particulier en France, un phénomène de désindustrialisation. Et il y a un débat important parmi les économistes de savoir si ces pertes qui ont été occasionnés pendant une période quand même assez longue de désindustrialisation, est-ce que ces pertes sont rattrapables? Est-ce que la politique commerciale en particulier est un outil parmi d'autres outils qui va permettre de réindustrialiser certaines régions où ce sera très très difficile? Et je pense que le jugement qu'on peut avoir sur l'IRA n'est pas encore complet du tout. Bon, d'abord, la politique, elle était mise en œuvre il y a 2 ans environ. Et oui, on voit des chiffres dans certains États, et en particulier dans des États à majorité républicaine. On se dit, tiens, il y a certainement des visées liées aux élections. On voit un certain nombre d'investissements, et c'est vrai qu'on voit des investissements qui viennent en particulier du Japon, de Corée, un peu d'Europe également. Et il y a bien sûr une inquiétude chez nous, et au contraire, un certain réjouissement du côté américain de voir que on parvient à renverser la tendance. Maintenant, est-ce que cette tendance, elle va être très très forte? Est-ce qu'elle va vraiment renverser la vapeur? Est-ce que des mesures protectionnistes sont le meilleur moyen pour y arriver? Là, je pense que il n'y a certainement pas encore suffisamment d'informations, et il y a encore un débat qui est immense. Donc, on peut vouloir une réindustrialisation, on peut la souhaiter. Est-ce que la politique commerciale et certains coûts à court terme qui font qu'effectivement on donne des subsides pour encourager des investissements, est-ce que ces investissements, il y a parfois des effets d'aubaine, des investissements qui auraient eu lieu de toute manière, qui profitent des subsides? Donc personnellement, je réserve mon jugement à encore un petit peu, attendre un petit peu sur les effets. Mais c'est vrai qu'on voit certaines choses. Il y a des choses qui bougent.
Oui, on va laisser juste Jean-Baptiste Velu réagir. Il voulait répondre à ce que vous étiez en train de dire.
Oui, pour compléter ce que disait Monsieur Sapir, il faut rappeler que l'IRA n'est pas simplement une réponse à la mondialisation, c'est aussi une réponse à la crise climatique. Donc ça, c'est aussi ce qui caractérise cette réforme. C'est un, comme vous le disiez, un investissement sans précédent. Alors les premières estimations, le coût sur le papier était 360 milliards, mais les dernières études, dans la mesure où il n'y a pas de plafond sur les subventions et l'aide notamment aux énergies renouvelables, on parle aujourd'hui de 1200 milliards, vous voyez, donc c'est vraiment un investissement énorme en faveur des énergies renouvelables. L'IRA est aussi une politique de la santé, ça on en parle beaucoup moins en Europe. qui a permis de protéger plus de citoyens américains.
En tout cas, ce sont des investissements énormes que les opposants à Joe Biden reprochent de creuser encore la dette américaine. Au Congrès, quand il s'agit de débattre de l'endettement des États-Unis qui atteint plus de 32 000 milliards de dollars accumulés depuis les années 80, là se trouvent peut-être des libéraux purs et durs qui continuent à penser que l'intervention de l'État dans l'économie est inefficace, voire nocive. C'est sans doute là qu'on les entend le plus dans ces débats au Congrès. Alors, Donald Trump, en pleine campagne, on est à 8 mois de la prochaine élection présidentielle, lui, il propose pour les prochaines élections, en partie pour rembourser la dette, il propose d'instaurer un droit de douane minimal universel sur toutes les importations aux alentours de 10%. C'est un argument qu'on a déjà entendu, ça, dans des campagnes, Jean-Baptiste Velu ? Parce que c'est peut-être là que la politique commerciale peut, en effet, servir, d'après lui, une politique plus sociale ?
Alors, ça va, c'est à la fois clairement une stratégie électorale, on est d'accord, mais aussi, à mon avis, un revirement ou une confirmation de ce repli protectionniste qui est non négligeable. On résume souvent la politique commerciale, enfin jusqu'à récemment, je dirais, à cette idée de deux pas en avant, un pas en arrière. On était déjà passé à deux pas en arrière, un pas en avant depuis quelques années avec l'administration Trump et l'administration Biden. Je dirais qu'aujourd'hui, le pas en avant n'existe plus et on recule clairement avec des conséquences très clair pour la gouvernance du système international, c'est-à-dire un pied de nez à l'OMC, hein, qui vient confirmer le blocage et ce repli unilatéral des États-Unis.
On parlera de ce blocage qui persiste à l'OMC. Alors Joe Biden, lui, en pleine campagne, dit que pour lui, l'organisme de règlement des différends de l'OMC doit être à nouveau opérationnel cette année, en 2024. On ne sait pas si c'est une façon de prouver sa bonne volonté de faire en sorte que cet organisme fonctionne, mais il s'expose peut-être à de gros litiges auprès de cet organisme, notamment par la Chine, qu'il accuse, c'est-à-dire que Joe Biden fait interdire de nombreux produits venant de Chine. D'abord, peut-être, André Sapir, encore un mot sur le programme de Donald Trump pour cette année, qu'il veut instaurer une sorte de droit automatique à répliquer à chaque fois qu'un pays imposera des droits de douane considérés comme élevés aux produits américains. Il faudrait que les États-Unis aient un droit automatique à répliquer. Est-ce qu'il en a dit davantage ? Est-ce qu'on sait si c'est encore une fois une proposition qui a déjà été faite par le passé ? Et ce qu'elle implique.
Donc, oui, d'avoir une telle automaticité n'est pas un phénomène nouveau. Il faudrait voir les conditions exactes qui n'ont pas été spécifiées par Trump pour cette automaticité. Est-ce que c'est dans tous les cas? Est-ce que c'est dans certaines situations? C'est un petit peu à voir. Mais non, ce serait pas entièrement une surprise. Ce qui est une plus grande surprise, c'est effectivement le droit de douane universel de 10% qui rappelle quelque chose qui date de début des années 70, qui était Nixon. Nixon a mis sur pied une surcharge de 10% sur les importations, mais ça, c'était lié à des questions de taux de change. Donc, d'avoir un droit de douane de 10% appliqué à tous les biens, c'est une espèce de dévaluation du dollar, mais dévaluation qui ne s'applique qu'aux importations. Quand on parle d'évaluation, on pense que ça freine les importations, ça aide les exportations. De mettre un droit de douane universel de 10%, ben ça va freiner les importations, mais ça va aussi freiner les exportations américaines, parce que les produits qui sont importés sont en partie aussi utilisés comme entrant dans des produits exportés. Donc je ne suis pas sûr qu'en fin de compte, son idée de 10% sera fort bien accueillie par les industriels américains qui sont du côté exportateur. Et ils existent malgré tout. Ils ne sont pas seulement en concurrence avec la Chine sur le marché américain, ils sont en concurrence avec d'autres pays sur des marchés mondiaux, et ce droit de douane de 10% risque de faire du mal. Trump parle aussi, en plus de ce droit de douane universel, en plus de cette automaticité de mesures de rétorsion, parle aussi de rajouter, il a déjà mis un droit de douane de 25% supplémentaire sur la Chine pour beaucoup de produits, il parle d'encore augmenter ces droits de douane sur la Chine. Donc je pense qu'il y a une focalisation sur la Chine qui est quand même très très importante, même s'il y a, c'est vrai, dans les discours de Trump et dans parmi ses conseillers, c'est vrai qu'ils ont comme juge pour examiner les choses, c'est le déficit commercial américain. Les États-Unis ont un déficit commercial important, et en particulier évidemment toutes les mesures de relance très très importantes qui sont prises par les États-Unis, y compris l'IRA, ne font que creuser ce déficit commercial. Donc en même temps, il y a un déficit commercial, on prend des mesures qui créent ce déficit commercial, on essaye de le combler par des mesures de protection, mais on n'y arrive pas, et ils sont dans une spirale assez difficile.
Alors,
en fait.
Jean-Baptiste Velu, pour mener à bien cette politique industrielle nouvelle génération aux États-Unis, une politique plus protectionniste qu'auparavant, une politique qui, il y a un besoin de sécuriser les chaînes d'approvisionnement, par exemple en matières premières, et pour sécuriser ces chaînes d'approvisionnement, les États-Unis continuent à nouer des partenariats avec des pays tiers. L'IPEF, par exemple, le sigle anglais de réseau économique indo-pacifique, vous disiez tout à l'heure qu'il ne fallait plus du tout employer le mot de traité de libre-échange, donc il s'agit bien d'un réseau économique indo-pacifique. Est-ce que ça ressemble néanmoins dans les faits au type d'accord que Washington avait l'habitude d'engager il y a encore 10 ans?
Non, la grande différence, c'est que ces accords ne concernent plus les droits de douane. Et donc, politiquement, c'était une manière de dire « nous ne faisons plus d'accords de libre-échange », contrairement à ce qui était fait. C'était une manière de calmer un petit peu l'électorat protectionniste qui soutenait Donald Trump. On sait que même les dernières études montrent que les tarifs douaniers et le protectionnisme marchent électoralement. Un nouvel article d'ailleurs de David Autor qu'on citait tout à l'heure. Pour l'IPEF, la difficulté, et puis l'APEP, donc il y a une version assez similaire en Amérique latine, bien moins avancée en termes de négociations. Les États-Unis demandent à un certain nombre de pays d'Asie Pacifique de négocier un certain nombre de clauses, alors sur les chaînes de valeur, effectivement, sur d'autres questions comme les normes sociales, normes environnementales, sur des questions réglementaires, sans leur donner la contrepartie, c'est-à-dire l'accès au marché américain. Et les États-Unis, voilà, étaient allés très loin dans le cadre de l'accord, la renégociation de l'ALENA. Et aujourd'hui,
l'accord qui le lie au Canada et au Mexique depuis plus de 30 ans, il a en effet été renégocié, mais sous Donald Trump.
Voilà, avec l'aide, des démocrates à la Chambre des représentants. Donc, on pourra y revenir peut-être tout à l'heure, mais ils sont allés très loin en matière de normes sociales, et on imagine mal comment aujourd'hui ils pourraient imposer de telles normes sans leur donner la contrepartie, c'est-à-dire la carotte du marché américain.
En effet, on fera un focus tout à l'heure en fin d'émission sur l'ALENA qui lie donc depuis 1994 les États-Unis au Canada et au Mexique et dont les États-Unis ont obtenu des normes plus exigeantes, notamment en matière de droit du travail. On verra les effets notamment sur la filière automobile. Vous vouliez faire une précision?
Oui, et puis l'autre point que j'allais ajouter, et ce qu'il faut prendre en considération, c'est que la campagne électorale fait qu'il était impossible de mener ces négociations à terme.
En tout cas, pour l'instant, c'est avec la zone Indo-Pacifique, 13 pays de la zone Indo-Pacifique, que les États-Unis sont en train de créer une sorte de réseau d'alliés autonomes de la Chine.
Les nations représentées aujourd'hui et celles qui sont appelées à rejoindre ce réseau économique de l'Indo-Pacifique se rassemblent autour d'une vision économique commune qui profitera à tous les peuples. Les États-Unis sont pleinement engagés dans l'Indo-Pacifique. Nous sommes prêts à tout mettre en œuvre pour imposer notre vision et garantir un avenir positif à la région.
L'Indo-Pacifique est une région très importante, à la fois pour la Corée du Sud et pour les États-Unis. Ensemble, nous construirons un cadre réglementaire fonctionnel pour la région. En ce sens, le projet de réseau économique de l'Indo-Pacifique constitue un premier pas décisif. Ce cadre nous permettra d'élaborer une stratégie commune pour contribuer à l'équilibre de la région.
Joe Biden suivi du président sud-coréen, André Sapir, qu'est-ce que les pays de l'Indo-Pacifique trouvent comme intérêt à intégrer ce cadre, puisqu'il ne faut pas dire accord commercial, à intégrer ce traité, ce cadre, alors même qu'ils n'ont aucune contrepartie commerciale?
Non, je ne dirais pas qu'ils n'ont pas de contrepartie commerciale. Souvent, dans ces accords, il y a d'abord de l'assistance technologique. Donc c'est vrai que l'Inde et d'autres pays de la région, tout ça il faut le voir effectivement à nouveau dans le cadre du conflit entre les États-Unis et la Chine, le gouvernement américain par ses partenariats s'allie de manière économique, de manière technologique avec un certain nombre de pays asiatiques et espère que les entreprises américaines qui, dans le domaine technologique, qui produisent en Chine, vont réorienter leur présence de la Chine vers ces pays partenaires avec des subsides qui sont accordés par le gouvernement américain et avec quand même des garanties vis-à-vis de ces pays partenaires d'avoir un accès au marché américain. Donc c'est vrai que ça n'est pas un accord commercial, on peut dire c'est plutôt un partenariat géopolitique, mais c'est un partenariat géopolitique qui porte sur des questions économiques et en particulier sur les questions économiques de haute technologie. Et je pense que ça c'est effectivement un changement assez radical parce que les États-Unis n'ont jamais eu beaucoup d'accords commerciaux, en fait. C'est pas qu'ils ont annulé des accords commerciaux qui existaient. Oui, c'est vrai que le président Obama, dans sa stratégie de contenement de la Chine, avait mis en place cette idée d'un accord commercial transpacifique avec le Japon, avec la Corée, avec les pays de la région Pacifique, dont le but était de contenir la Chine, mais avec un accord commercial. On a abandonné, c'est Trump qui a abandonné cette stratégie, et maintenant la nouvelle stratégie, celle de Biden, ce sont de faire effectivement des partenariats géopolitiques. Mais le but, il est le même. Le but d'Obama, le but de Trump, le but de Biden, c'est quand même chaque fois, va dans le même sens, c'est de contenir l'influence de la Chine. Oui, mais de manière différente.
Jean-Baptiste Velu, vous voulez à nouveau réagir, c'est aussi, Jean-Baptiste Velu, une façon de s'assurer que la Chine ne passe pas par ces pays, notamment via le RCEP dont on parlait mardi, ce grand traité de libre-échange entre Chine, grande puissance aussi de l'Indo-Pacifique et pays de l'Asie du Sud-Est, que donc la Chine ne passe pas par ces pays pour exporter ensuite comme si de rien n'était vers les États-Unis, parce que ça c'est possible, ce serait d'ailleurs loin d'être la seule à le faire, la Chine, mais il y a cette volonté-là de contrôler aussi systématiquement tout ce qui entre aux États-Unis, ça vient de pays partenaires, mais on contrôle que rien ne vient de la Chine.
Oui, c'est toute la difficulté, c'est les effets de détournement du commerce qui sont très difficiles à retracer. Et si on regarde, alors c'est le résultat en quelque sorte de cette stratégie de découplage que l'on rebaptise aujourd'hui le de-risking, c'est de sécuriser les chaînes de valeur et d'être moins dépendant de la Chine. On voit aujourd'hui que le Vietnam ou la Malaisie arrivent à tirer leur épingle du jeu. Et ces pays en voie de développement, ces pays émergents, jouent, un double jeu entre la Chine, qui reste leur premier partenaire commercial de loin par rapport aux États-Unis, et les États-Unis, dont ils veulent aussi bénéficier de garanties en termes de sécurité. Donc, M. Sapir avait entièrement raison de souligner l'importance de la dimension géopolitique dans cet accord.
Dimension géopolitique, d'autres mesures prises ces dernières années aux États-Unis, le CHIPS Act qui coupe les subventions aux entreprises américaines qui voudraient produire des composants informatiques sur le sol chinois, les entreprises américaines qui avaient délocalisé la quasi-totalité de leur production à Taïwan par ailleurs. Donc, on a commencé à rapatrier la production. Et par ailleurs, les États-Unis interdisent aujourd'hui l'importation de produits issus du travail forcé. Alors, c'est difficile d'établir des critères précis pour savoir si, par exemple, comme ils le disent, les Américains, le coton chinois, les gants, les produits à base de tomates ou les composants nécessaires à l'énergie solaire viennent tous du Xinjiang et ont été produits sous la contrainte par des Ouïghours. C'est ce que disent aujourd'hui les États-Unis. Est-ce que la Chine porte systématiquement ces litiges-là devant l'OMC, où elle pense que c'est une perte d'énergie inutile parce que de toute façon, l'OMC ne répond plus jamais à ses sollicitations, Jean-Baptiste Velu?
Alors d'abord, je pense que ce que vous évoquez sur cette loi sur la protection contre le travail forcé illustre ce qu'on évoquait tout à l'heure quand on parlait de Jake Sullivan, qui est, rappelons-le, le conseiller de la sécurité nationale. Et c'est une voie, assez atypique en matière de commerce qui témoigne de cette géopolitisation du commerce, donc ce rebasculement, hein, même si les enjeux politiques ont toujours existé. Le fait que Sullivan s'exprime sur ces questions est un premier signe.
Oui, pour plus en revenir que sur la revue dans laquelle il s'exprime, c'était, je l'avais mal formulé tout à l'heure, mais en effet, qui parle de politique commerciale.
Et pour cette loi dont vous parliez à l'instant, le fait que aujourd'hui on a un nouvel acteur qui joue un rôle accru dans le contrôle de ces exportations, c'est le Customs Border Protection, qui va demander aux entreprises de faire tout pour retracer leur chaîne de valeur et s'assurer qu'aucun de leurs composants ne vienne du Xinjiang. Et là, pour avoir échangé avec des responsables d'entreprises américains en logistique, en commerce international, ils nous disent « mais c'est un surcoût pour nous qui est dramatique parce que c'est très difficile à faire et il faut... voilà, c'est la nouvelle police du commerce international et donc toutes ces clauses qui m'apparaissent très sensées ont aussi des répercussions économiques pour les entreprises, notamment dans le frais.
Bon, l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, pour l'instant, ne prend difficilement parti sur ces questions-là, puisque on disait tout à l'heure que le système de règlement des différends de l'OMC est, pour ainsi dire, devenu fantoche. Les États-Unis passent quasiment automatiquement entre les mailles de son filet. Les États-Unis, qui sont le pays qui dépose le plus de plaintes auprès de l'OMC, et celui contre lequel on dépose le plus de plaintes au monde, il bloque désormais toute décision politique ou toute décision juridique à l'OMC. Et ça, André Sapir, Joe Biden dit vouloir changer. Il dit vouloir que cette réforme ait lieu en 2024 pour que cette organisation de différents des conflits soit de nouveau opérationnelle. Comment est-ce qu'on peut l'entendre? Est-ce que c'est juste une façon de se montrer de bonne volonté auprès des partenaires occidentaux et de tous les partenaires en général? Comment faut-il entendre cette promesse de Joe Biden?
Alors je commencerai par vous corriger, si vous le permettez.
Allez-y,
sur
si j'ai fait une
question.
Approximation.
Non, non, non. Oui, c'est ça, je pense. Sur la question du système de règlement des différends. Donc, peut-être rappeler aux auditeurs que lorsque des pays membres de l'OMC ont un différend qu'ils ne sont pas en mesure de régler de manière bilatérale, ils peuvent, ils ne sont pas obligés, bien entendu, ils peuvent l'amener à Genève, à l'OMC, et demander à l'OMC de régler ce différend. Et cela se fait en principe par un système à deux niveaux.
On n'a pas énormément de temps, donc je vous laisse le raconter rapidement, si vous voulez bien, M.
Oui,
Sapir.
Donc c'est important de comprendre que les États-Unis et le système continuent à fonctionner au premier niveau, c'est-à-dire un panel.
Oui, c'est la cour d'appel qui ne marche plus.
C'est la cour d'appel. Voilà. Et par exemple, il vient d'y avoir un règlement de différend entre l'Union européenne, entre en particulier l'Espagne et les États-Unis, sur lequel les États-Unis ont accepté la décision. Donc les États-Unis ne sont pas sortis du système de règlement des différends. Donc c'est au niveau de l'appel et effectivement, dans un certain nombre de cas, lié à la Chine, mais pas uniquement, qui est un problème. Donc il ne faut pas laisser penser que le système de règlement des différends a entièrement disparu, ni même que les États-Unis n'y participent plus du tout. Ça n'est pas entièrement correct. Mais il y a effectivement, au niveau de l'organe d'appel, il y a clairement une difficulté, et les États-Unis sont au centre de cette discussion. Et c'est vrai que en partie, et à nouveau peut-être même au centre de cette discussion, se trouvent la Chine et les conflits avec la Chine sur différentes choses, que ça soit l'anti-dumping ou que ça soit les mesures du Xinjiang en termes de main-d'œuvre forcée.
Yeah. begin once again. Just a friend on the wind seeking shelter. There's a crack in the sky and a light from on high. Getting higher and higher when the wind blows.
Les Black Keys et leur titre tout nouveau Beautiful People, extrait de l'album Ohio Players qui va sortir en avril prochain. L'Ohio dont sont originaires les membres du groupe ainsi que les nombreuses usines que les présidents américains entendent aujourd'hui protéger. Vous écoutez Culture Monde, le dernier épisode de notre série consacrée aux accords de libre-échange et à leurs implications géopolitiques. Aujourd'hui, les non-accords de libre-échange, ceux que les États-Unis ne signent plus puisqu'ils ont misé sur le protectionnisme, principalement pour des raisons stratégiques, nous disaient nos invités, il s'agit de damner le pion à la Chine. Et en cela, les États-Unis essayent d'embarquer. C'est leurs alliés de l'ALENA, le Canada et le Mexique.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
The auto workers are not going to have any jobs when you come right down to it, because if you take a look.
Les ouvriers de l'automobile n'auront plus d'emploi, car si vous regardez ce qu'ils font avec les voitures électriques seront fabriquées en Chine. Je vais vous dire, les ouvriers de l'automobile sont laissés tomber par leurs dirigeants, alors que leurs dirigeants devraient soutenir Trump. Vous devez avoir le choix, comme vous l'avez pour le choix de l'école, je le veux aussi pour les voitures. Car si quelqu'un veut de l'essence ou du tout électrique, il peut faire ce qu'il veut, mais il détruit le consommateur et il détruit les ouvriers de l'automobile. Ils n'auront plus d'emploi parce que toutes ces voitures seront fabriquées en Chine.
Donald Trump en pleine campagne, c'était il y a quelques mois sur la chaîne CNBC. Toutes les voitures électriques seront fabriquées en Chine, dit-il. C'était sans compter qu'entre-temps, le géant chinois BYD a annoncé son intention d'ouvrir une usine au Mexique. Ces voitures électriques chinoises contre lesquelles met en garde Donald Trump seront donc aussi fabriquées chez son voisin du Sud et partenaire commercial de longue date. L'ALENA, accord commercial avec le Mexique et le Canada, peut-il être de quelques secours pour préserver l'industrie automobile nord-américaine. Il est 6h42 à Montréal où vous êtes, Mathieu Arès. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur à l'université de Sherbrooke et chercheur au Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation. Alors d'abord, avant même de parler de la voiture électrique, comment l'industrie automobile en général a évolué en exactement 30 ans au sein de l'ALENA adoptée en 94? Est-ce qu'en 30 ans, s'est dessinée une nouvelle chaîne de fabrication et de commercialisation des véhicules entre les trois pays?
Tout à fait. Donc, le phénomène nouveau, c'est le phénomène ALENA, c'est le rôle majeur maintenant du Mexique comme plateforme de fabrication. La production mexicaine, juste pour donner un exemple, est passée à peu près de 2 millions de véhicules à 4 millions de véhicules. Et la plupart des nouveaux investissements non américains, sont exclus Ford ou GM, la plupart des constructeurs internationaux s'installent maintenant au Mexique plutôt que dans les deux autres pays. Et comme vous avez dit en introduction, le dernier en liste, c'est le producteur d'auto électrique chinois qui s'en vient, et c'est ce qui a fait réagir Monsieur Trump la semaine dernière en disant qu'il n'y aura pas d'auto chinoise qui va rentrer, qu'elle soit du Mexique ou directement de Chine.
Alors, pour l'instant, l'ALENA, tel qu'il fonctionne, même s'il a été réformé, on va en parler il y a deux ans, l'ALENA continue à fonctionner selon une sorte de spécialisation des pays. Le Canada fournit les ressources naturelles, les États-Unis développent les technologies et s'occupent des aspects financiers, le Mexique est chargé de l'assemblage avec 24 sites d'assemblage aujourd'hui dans le pays. Quand les États-Unis prennent des mesures protectionnistes, est-ce qu'ils prennent en considération ce fonctionnement de 30 ans de l'ALENA? Est-ce qu'ils consultent leurs deux partenaires que sont le Canada et le Mexique pour que ce protectionnisme reste dans un cadre nord-américain et pas strictement états-unien?
La gageure de M. Trump, c'était de changer tout ça lors de la renégociation. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que les grands constructeurs nord-américains eux-mêmes avaient mis leur chaîne de valeur à l'échelle du continent, de l'Amérique du Nord. Et eux-mêmes étaient le principal blocage contre des velléités protectionnistes très, très nationales. Donc, ce qui a été adopté, c'est un peu un nouveau protectionnisme un peu régional, si on peut dire, parce qu'on a raffermi dans les normes du contenu d'origine, des règles d'origine. Et ce qu'il y a de nouveau dans une auto, c'est pas tellement les pneus ou le volant, c'est évidemment toute la technologie embarquée, donc l'auto-intelligente, et évidemment la révolution de l'auto électrique. Et c'est un peu ça qui est en jeu maintenant. Donc, pourquoi on voulait resserrer les normes dans le domaine notamment de l'informatique embarquée? Ben, c'est simplement, c'est des produits asiatiques pour la plupart, et on voulait obliger les grands de ce monde en disant, ben, si vous voulez qu'on compte ces autos-là, ces produits-là dans le contenu canadien, nord-américain, ben, il faut s'installer maintenant en Amérique du Nord. Dans ce sens-là, c'est une façon de favoriser la venue d'entreprises électroniques étrangères pour le domaine de l'automobile en sol nord-américain.
La renégociation de l'ALENA en 2020 a encore durci la définition d'un produit nord-américain. Les conditions exigées pour qu'une voiture, par exemple, soit considérée comme telle et bénéficie donc de l'exonération de taxes. Quels sont ces critères désormais pour dire ce produit-là, voilà, on va l'exempter de taxes parce qu'il est nord-américain?
Oui, parce que maintenant, on ne s'échange plus tellement d'auto finis, on s'échange des pièces, donc on compte le contenu de fabrication qui est régional. Et là-dedans, il y a deux critères. Essentiellement, on a élargi le nombre de pièces qui étaient couvertes, comme je viens de le dire, notamment tout ce qui s'appelle électronique qui n'était pas couvert dans la première formule. Maintenant, c'est couvert. Deuxièmement, on est passé d'un contenu nord-américain de 62,5% nord-américain à 75, donc on a raffermi l'ensemble général. Et l'autre truc, c'est qu'on a maintenant des salaires minimaux qui doivent être respectés à travers les pays. Essentiellement, c'est soi-disant, c'est des salaires élevés, là, on parle de 16 $ américains, ce qui correspond grosso modo au coût déjà existant de Ford ou de GM. Donc, on a simplement pris la chaîne de valeur, le coût selon la spécialisation des pays. On a dit, ça devenir la norme pour tout le monde.
Est-ce que les travailleurs mexicains en ont profité d'ailleurs? Parce que 40% aujourd'hui de la voiture doit avoir été fabriquée par des ouvriers payés plus de 16 $ américains de l'heure. Est-ce que vous disiez tout à l'heure que c'était vraiment au Mexique qu'aujourd'hui s'assemblaient les voitures. Est-ce que les ouvriers mexicains ont profité de ces mesures sociales américaines?
Pas vraiment, parce que comme je vous dis, c'était un peu déjà la norme. Là où ça change un peu, c'est pas tellement dans les grandes usines d'assemblage, c'est pour les fournisseurs de pièces à ces grandes usines d'assemblage. Donc, dans ce cas-là, oui, il y a un effet qui était bénéfique pour le travailleur de l'automobile. L'idée étant, c'est d'élever le coût de la main-d'œuvre au Mexique pour qu'il soit comparable à ce qui se fait notamment dans le sud des États-Unis. Et évidemment qu'on va avoir un discours un peu « je protège l'emploi des travailleurs américains ». Et donc, ça rentrait un peu dans la rhétorique trumpiste là, de rapatrier le secteur automobile, notamment dans les Grands Lacs.
Avec des mesures aussi prises après lui par Joe Biden qui n'ont pas plu au Canada et au Mexique, ça a fait l'objet de très longues discussions. L'Inflation Reduction Act, l'IRA, adopté en 2022 par exemple, qui accorde un crédit d'impôt de 7 500 $ pour l'achat d'un véhicule électrique, prévoyait aussi à l'origine un crédit d'impôt supplémentaire de 4 500 $ si la voiture était fabriquée par des ouvriers syndiqués aux États-Unis et 500 $ de plus si la batterie était aussi de fabrication américaine. Ça, finalement, s'est passé ou pas? Qu'en a dit le Canada, par exemple, où vous êtes?
Ah, le Canada et le Mexique étaient furieux.
Ils auraient pu s'aligner, ceci dit, parce que c'était pas une si mauvaise idée.
Oui, mais c'était vraiment États-Unis, c'était pas nord-américain. Ouais. Donc la représentation a dit, mais comment ça que ce n'est applicable que pour les autos qui sont fabriquées exclusivement aux États-Unis? À ce moment-là, ça désavantageait tant le Mexique que le Canada en termes de lieux de production. Les nouveaux investissements s'offraient aux États-Unis pour pouvoir bénéficier justement de ces rabais-là. Alors que maintenant, c'était modifié, c'est en Amérique du Nord. Il faut savoir par exemple, une auto mexicaine a à peu près 60% de composants de pièces américaines. C'est un petit peu moins du côté canadien. On est autour de 45%. Donc, c'est très, très difficile de dire dans une auto quelle est la nationalité réelle du Canada ou des États-Unis, du Mexique. On avait calculé à l'époque que n'importe quelle pièce d'une auto traversait une des frontières à peu près entre 8 et 16 fois avant qu'elle soit vendue au consommateur. Et donc, c'est vraiment une chaîne d'approvisionnement nord-américaine. Donc, toute velléité de centrer nationalement sur un des trois pays est très, très difficile. Et d'ailleurs, là encore, c'était beaucoup l'industrie américaine qui a dit non, c'est pas faisable, ton idée.
Alors, juste un petit mot pour conclure, Mathieu Arès. Est-ce que le Mexique peut accueillir une ou des usines d'assemblage du géant chinois chinois de l'électrique, de la voiture électrique BYD, sans provoquer la colère de son partenaire américain, voire une rupture de l'ALENA. Quels sont les débats aujourd'hui à ce sujet?
Ben, officiellement, c'est l'avenue du géant chinois, c'est pour desservir le marché mexicain et latino-américain. Donc, ça, on verra. Mais en pratique, rien dans l'ALENA qui empêche l'avenue de ce constructeur. Comme tous les grands constructeurs maintenant internationaux sont au Mexique. Mais là encore, on peut voir là un peu la gageure d'où va être fait les batteries, où vont être faites les pièces. Donc, est-ce que c'est vraiment exclusivement au Mexique? Si ce n'est que ça, évidemment, il va avoir beaucoup, ça va être au cœur de la campagne présidentielle américaine. Si c'est, on va s'approvisionner un peu comme les autres à travers l'Amérique du Nord, ben, je pense que ça peut un peu s'estomper et on va faire évidemment de M. Trump qui peut s'en servir dans son brouhaha. Mais M. Biden ne serait pas surprenant non plus qu'il reprenne la même chanson, du moins jusqu'au présidentiel.
Merci beaucoup Mathieu Arès, professeur à l'Université de Sherbrooke, chercheur au Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation. Merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis le Québec. Un mot pour réagir, Jean-Baptiste Velu, à ce qui a été dit à la fois sur cet accord de l'ALENA qui a été renégocié avec des clauses d'avantage social, et aussi pour réagir à ce que disait tout à l'heure André Sapir sur le fait que pour l'instant les États-Unis n'avaient pas quand même quitté la mondialisation qui continuait notamment dans l'OMC, en excluant cette cour d'appel de l'OMC qui ne fonctionne pas, mais continuait à être très présent dans les accords et les discussions internationales.
Oui, c'est l'ironie de cet accord. J'en profite pour saluer Mathieu Arès, notre collègue canadien. Je dirais que c'est l'ironie de cet accord qui est en fait le dernier accord de libre-échange que signeront peut-être les États-Unis avant un moment, hein, vu ce moment, cet élan protectionniste qui risque de durer. Ce qui est intéressant, c'est que ça a été le fruit, en fait, on parle de Donald Trump qui avait politisé l'ALENA et qui en a fait sa campagne électorale de 2016. Mais en fait, cet accord, il tire ses origines du TPP, donc beaucoup de clauses du TPP, du traité transpacifique, ont été reprises dans le cadre de ces négociations, et donc cet accord, à bien des égards, a emprunté aux clauses réglementaires du TPP. Et ce qui a été intéressant, et notamment ces accords, ces tractations sur les clauses sociales, ce qui est très intéressant, c'est de voir que grâce aux négociations de la Chambre des représentants et des démocrates qui sont très impliqués sur la ligne finale de cet accord, les États-Unis ont réussi avec le Canada à conclure des clauses très ambitieuses qui ont réussi à contenter à la fois les antimondialistes de Trump, les altermondialistes ou progressistes du Parti démocrate, et tout le monde était d'accord pour dire qu'il s'agissait d'un mécanisme très innovant.
Merci beaucoup, et on en verra, comme disait André Sapir tout à l'heure, on en verra les effets dans quelques années. Merci d'avoir été avec nous, Jean-Baptiste Velu, professeur des universités à la Sorbonne Nouvelle, cofondateur de l'Observatoire de la politique extérieure américaine. Vous avez publié une étude comparée là tout récemment sur l'application des normes sociales et environnementales des accords de libre-échange pour la Commission européenne. Merci André Sapir également d'avoir été avec nous depuis Bruxelles, professeur à l'Université libre de Bruxelles, chercheur à l'Institut Brugel. Et merci à Angélique Boin de vous avoir accueilli dans les bureaux de Radio France à Bruxelles. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Et vous commencez, Catherine, avec la réaction de certains Russes qui s'en prennent à des immigrés d'Asie centrale après l'attentat de Moscou, pour lequel 4 Tadjiks ont été inculpés.
Quelques jours après avoir montré qu'il contrôlait la Russie jusqu'au dernier bureau de vote à l'occasion de la présidentielle, Vladimir Poutine doit contenir une crise interne à son pays qu'il veut multiethnique pour des questions économiques et géopolitiques, soulignent la BBC et le New York Times. Si la propagande ne cesse de rabâcher le mantra de la piste ukrainienne, les images semblent peser plus lourd que les mots dans l'esprit des moscovites, écrit la Stampa en Italie. Il faut dire que les visages des tueurs présumés que leur montre la télévision russe ressemblent beaucoup à ceux qu'ils croisent tous les jours. Des éboueurs, maçons, des conducteurs de taxi, des serveurs, des vendeurs, énumère le journal italien. Les autorités russes comptent 10,5 millions d'immigrés originaires d'Ouzbékistan, du Tadjikistan, du Kirghizistan, mais beaucoup d'autres ne sont pas enregistrés, précise la BBC. Déjà discriminé, méprisé, le Tadjik devient une menace depuis vendredi. La grande peur du terrorisme, explique la Stampa, prend tout à coup le visage de celui qui est différent, de l'étranger, du musulman. Une avocate qui aide bénévolement les migrants a déclaré aux médias russophones indépendants, Mediazona, qu'elle avait reçu en seulement 2 jours 2500 alertes pour agression contre les immigrés d'Asie centrale. Passage à tabac, notamment à Kalouga, une ville au sud-ouest de Moscou. Des magasins vandalisés aussi jusque dans l'extrême-orient russe. Ces violences ne cessent d'augmenter, relève la BBC et Mediazona, au point que des Tadjiks envisagent de quitter la Russie, alors que le Tadjikistan est le pays le plus pauvre d'Asie centrale. La moitié de son PIB provient des fonds envoyés par des proches à l'étranger.
Et ces violences ne sont pas uniquement le fait des citoyens russes.
Si des directeurs de centres commerciaux demandent une liste de tous leurs employés originaires d'Asie centrale, rapporte la Stampa, la police, elle, est entrée par effraction dans plusieurs foyers d'immigrés à travers toute la Russie, explique la BBC. Plusieurs ressortissants d'Asie centrale ont été arrêtés. 30 cas de torture présentés à l'avocate des droits humains interrogée par la BBC.
С документами у нас все в порядке. Нас тут заперли, сидим, ждем. Нас не выпускают, еды не дают, в магазин тоже не выпускают.
Nos papiers sont valides, mais nous avons été arrêtés. Nous attendons enfermés, raconte un ressortissant kirghize dans une vidéo relayée notamment par Radio Free Europe, média financé par le Congrès américain. Nous sommes détenus comme des criminels, se plaint encore ce kirghize. Il ne nous laisse même pas aller aux toilettes. Par ailleurs, Radio Free Europe raconte que des chauffeurs de taxi ont vu des courses annulées par des clients russes qui refusent de monter dans des voitures d'immigrés d'Asie centrale. À la télévision, indique le New York Times, Vladimir Poutine a dit refuser que l'attentat ne sème les graines empoisonnées de la haine et de la discorde dans notre société multiethnique. Il se souvient que les dernières révoltes qui ont éclaté en Russie étaient toutes liées à des tensions interethniques, notamment au Daghestan, rappelle la Stampa. Le Kremlin a aussi besoin des immigrés d'Asie centrale, de la minorité musulmane, pour combattre en Ukraine, pour assurer aussi le bon fonctionnement de l'économie russe à l'arrière. Mais bon nombre des partisans de l'invasion russe sont des nationalistes qui multiplient les messages racistes sur les réseaux sociaux depuis vendredi, indique le New York Times. Vladimir Poutine marche sur une corde raide, souligne le quotidien américain. Son entourage est divisé entre les partisans de la sécurité anti-immigration et le complexe militaro-industriel qui a lui besoin de la main-d'œuvre immigrée.
Et toute autre chose à présent, Catherine, pour finir, vous nous emmenez au Royaume-Uni, voir les réactions provoquées par les révélations des noms des influents membres du Garrick Club.
Un cercle social huppé uniquement réservé aux hommes depuis sa fondation au 19e siècle, indique le New York Times. Dans le bâtiment en pierre grise situé près de Covent Garden, au centre de Londres, les 1500 membres du Garrick Club débattent de son avenir autour de côtelettes d'agneau dans la salle à manger ou d'un verre après le dîner, mais aussi dans un groupe WhatsApp. Après les révélations du Guardian sur la composition donc de ce club réservé aux hommes, les acteurs Benedict Cumberbatch, Brian Cox de la série Succession en font par exemple Party, énumère le Guardian et le New York Times, le chef d'orchestre aussi du London Symphony Orchestra, des ambassadeurs, des juges de la Cour suprême britannique ou encore Oliver Dowden, vice-premier ministre. Mais plus Simon Case, le ministre du cabinet qui supervise près d'un demi-million de fonctionnaires, ni Richard Moore, le chef du MI6, les services secrets britanniques. Il a rendu sa carte de membre du Garrick Club après avoir tenté d'expliquer lors d'une audience parlementaire qu'il plaidait pour l'admission de femmes, qu'il tentait de réformer le club de l'intérieur plutôt que de lui jeter des pierres de l'extérieur. Mais son adhésion contredisait, selon le New York Times, son projet d'apporter plus de diversité au sein du MI6, dont l'image est toujours celle d'un nid d'espions masculin à la James Bond, peu ouvert aux femmes. Ces défections en série au sein du Garrick Club sont-ils une tempête dans une théière ou bien le monde des clubs est-il à un tournant à cause de l'hystérie de la gauche? Je cite là le Télégraphe, quotidien conservateur britannique. En 2015, un vote sur l'adhésion des femmes n'avait pas atteint une majorité. Dommage, selon Jude Kelly, ancienne directrice de théâtre qui dirige aujourd'hui l'organisation caritative Women of the World, car les opportunités professionnelles y coulent autant que le brandy. Un nouveau vote doit avoir lieu au Garrick Club en juin prochain.
Merci Catherine Dutu.